Mère, je t'ai allumé l'appareil. Clique donc une fois dessus, hein, peut-être sur la flèche. Oh, OK. Non. OK, bon. Habité par l'Évangile. On dirait qu'il y a comme un délai. C'est vrai qu'il manque en tout. OK. Donc, on trouve ça lourd parce qu'on pense que c'est une tâche à faire. Il faut que j'évangélise. Mais je réalise de plus en plus que l'évangélisation, ce n'était pas une question de ce que je fais, mais une question de ce que Dieu fait en moi. Et quand on a cette perspective-là, ça change tout. Ça change tout. Qu'est-ce que Dieu veut faire, première des choses? Il veut me transformer. Il veut me transformer de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et il veut que cette transformation-là, que les autres la voient et qu'ils deviennent curieux, hein, aussi. Et il veut que j'en parle. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Hey, t'as donc bien changé. Et c'est un petit peu qui va se passer si on est vraiment habité de l'Évangile. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça prier. Oh oui, Père Céleste, encore une fois, c'est toi qui es au contrôle de toutes choses, Seigneur. C'est toi qui es le Dieu souverain, Seigneur. Et Père Céleste, je te remets, Seigneur, ce temps que nous aurons ensemble, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, tu puisses nous parler comme tu m'as parlé à travers ce temps, cette prédication, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs, que vraiment on soit transformé par toi, Seigneur, de plus en plus dans nos vies, et que cet évangile de grâce puisse nous habiter, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Donc, vous savez que la grande commission que Jésus a donnée, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et ça, il a dit ça à ses disciples. Il n'a pas dit ça à l'Église. Donc, c'est à ses disciples qui a dit de parler de lui, d'aller faire des nations toutes les disciples. Donc, étant donné que c'est aux disciples que ça s'adresse, j'ai cru bon de regarder la déclaration des disciples et je me suis aperçu que finalement tout mon message, tous les points du message étaient là-dedans. Donc, on va la lire parce que c'est les déclarations de disciples de l'Église de l'Espérance de Saint-Félicien. Donc, c'est ce que le Seigneur a conduit le conseil à composer ça et que vous avez accepté d'ailleurs. Donc, nous allons le lire. Donc, je suis un disciple de Jésus-Christ. J'ai été choisi, appelé et aimé par lui d'un amour éternel. Par la foi en l'Évangile, j'ai été réconcilié avec mon Père. En effet, par sa mort, pour moi, sur la croix, Jésus a pris mon péché. Sur lui, et a mis sa justice sur moi. Je suis maintenant accueilli par Dieu dans sa famille comme un enfant adopté. Sa faveur repose sur moi et je jouis de son acceptation inconditionnelle. Je chemine dans cette relation de confiance avec un Dieu qui me chérit et qui veut guérir et prendre soin de mon cœur. Plus j'accueille son amour pour moi, plus je l'aime et plus je me détourne de tout ce qui est contraire à sa volonté. Par sa parole, il m'éclaire et par son esprit, la vie de Jésus coule en moi et me transforme. C'est cette vie qui produit en moi une ressemblance grandissante à Jésus dans mes attitudes et dans mes relations avec les autres. De tout cœur, je désire aimer comme j'ai été aimé, accueillir comme j'ai été accueilli. Je veux être pour les autres ce que Jésus a été pour moi. C'est pourquoi je me joins à une communauté de gens qui, tout comme moi, désirent démontrer la compassion de Jésus envers le monde brisé et annoncer cette bonne nouvelle qui transforme des vies. Donc, la dernière phrase nous dit, « Par sa parole, il m'éclaire et par son esprit, la vie de Jésus coule en moi et me transforme. » Donc, c'est ça. Ça nous transforme, l'Évangile. C'est par sa parole que ça se fait, c'est par son esprit. Et je réalise que j'ai tellement besoin de cette transformation dans ma vie. Et ça, ce n'est pas juste la déclaration du disciple qui dit ça. On voit ça aussi dans Paul, dans Éphésiens. Donc, si vous pouvez tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 4, donc juste pour appuyer ce point-là. Donc, Éphésiens chapitre 4. Donc, Éphésiens chapitre 4. Pour changer nos habitudes, hein? Donc, verset 17, ça va comme suit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la volonté de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'était notre cas. On faisait toute partie de ça. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Okay. Que produit la vérité? Donc, on parle carrément ici de transformation, n'est-ce pas? Donc, on devient un homme ou une femme nouvelle, un être nouveau. Mais comment ça se fait, ça, revêtir cet homme nouveau-là? Eh bien, la première étape de cette conversion, nous la voyons dans cette déclaration, c'est donc, j'ai été choisi, appelé et aimé par lui d'un amour éternel. Donc, par la foi en l'Évangile, j'ai été réconcilié avec mon Père. En effet, par sa mort pour moi sur la croix, Jésus a pris mon péché sur lui et a mis sa justice en moi. Donc, ça, c'est ce qui se passe à la conversion. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, et par la suite, donc, nous sommes invités à vivre cette identité de l'Évangile, d'enfant de Dieu, et à la mettre, à coopérer avec Dieu dans son œuvre de transformation. Donc, Paul nous dit que nous avons été instruits à nous dépouiller de notre vie passée et à être renouvelés par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau qu'on vient voir. Mais qu'est-ce que cet homme nouveau-là? Et, car pour la revêtir, ben, il faut savoir de quoi on parle. Eh bien, notre déclaration parle de cet homme nouveau que nous avons. Donc, une fois qu'on est converti, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Je suis maintenant accueilli par Dieu dans sa famille comme un enfant adopté. Voilà notre identité. On est des enfants de Dieu. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que je crois que je suis accueilli par Dieu? Oui, ça peut être très théorique, mais est-ce que je le crois dans le fond de mon cœur, que je suis accueilli par Dieu, que je suis un enfant adopté, que je fais partie de sa famille? Et un enfant qui naît ne peut pas changer son identité, il fait partie de sa famille. Mais maintenant, est-ce qu'on agit selon notre identité d'enfant de Dieu? Et là, c'est là revêtir l'homme nouveau, tout le processus de transformation qui se commande. Et par la suite, il nous dit, sa faveur repose sur moi et je jouis de son acceptation inconditionnelle. Est-ce que j'y crois ça aussi, que je suis accepté inconditionnellement? Même quand je pêche? Ah, ouf, quand on pêche. Ah non, Dieu veut plus de moi. Non, il veut encore de nous. Ça ne change rien. On est toujours ses enfants. Mais il est fidèle. Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Et souvent, l'ennemi joue là-dessus. Ben, regardons voir si tu es un enfant de Dieu. Regarde ce que tu fais. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Il faut croire à notre identité, que sa faveur repose sur moi et que je jouis de son acceptation inconditionnelle. Très important. Ensuite, il dit, je chemine dans cette relation de confiance avec Dieu qui me chérit, qui veut me guérir et prendre soin de mon cœur. Ça, c'est quelque chose. Donc, je ne sais pas si ça va marcher, là. Connaissez-vous le kintsugi? Non, hein? Yes. Donc, le kintsugi, OK? C'est pas ça. Mais, non. OK. Le kintsugi, c'est une méthode japonaise de réparation de porcelaine ou céramique brisée au moyen d'un lac saupoudré de poudre d'or. Littéralement, ça veut dire jointure dorée. Là, j'avais une image, mais c'est pas la bonne. OK. Non. Mais je pense que j'ai pas la même version. Je pense que l'ordinateur ne supporte pas ma version PowerPoint. En tout cas, donc, c'est des porcelaines qui sont cassées, OK, que les artisans mettent un lac et de la poudre d'or et ça redevient fonctionnel. Et il semble, on dit que ces porcelaines-là, qui sont ainsi réparées, sont plus belles que leur état initial et ont plus de valeur. Eh bien, vous savez, être brisé et être réparé fait partie de la vie dans ce monde-là. Oui, Dieu me chérit, je peux avoir confiance en lui. Oui, Dieu pardonne mes péchés, mais il veut plus que ça. Il veut aussi guérir les conséquences de ces péchés ont eu dans ma vie, dans nos cœurs. Ces péchés ont brisé mon cœur en miettes, mais Dieu veut le réparer. Donc, le kintsugi du cœur, il faut apprendre à se laisser réparer notre cœur. Tout comme dans le kintsugi, on doit porter les morceaux brisés à l'artisan. OK? Eh bien, c'est la même chose avec notre cœur. Nous sommes encouragés à porter notre cœur brisé à Dieu. Mais ça implique de notre part de faire un inventaire de mon cœur, de tout trouver les petits morceaux qui sont brisés. Parce que s'il en manque, il ne peut pas revenir. Et c'est ça qui est difficile, et apporter ces morceaux-là à Dieu. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que je suis prêt à visiter mon cœur pour que Dieu puisse guérir ce cœur en mien? Ça, c'est une question difficile à répondre. Parce que c'est un processus difficile. Ça va impliquer de visiter des choses douloureuses dans nos vies qu'on ne veut pas souvent. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous accompagne dans ce processus-là. Et on peut aussi trouver l'aide des frères et des sœurs. Je dois vous dire que pour moi, qui est très rationnel, ce n'est pas très facile d'aller vers le côté du cœur. Moi, c'est plus l'intellectuel. Car le monde des émotions, je l'ai toujours un petit peu méprisé, je l'ai fait taire. Ah, c'est pas important. C'est pas grave. La raison, voilà ce qui est important. Mais plus je réfléchis, plus je lis la parole de Dieu, le cœur est très important. Les émotions sont très importantes. Le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Comment aimer Dieu sans émotion? Je pense que poser la question, c'est quasiment y répondre. Vous savez, vendredi passé, c'était la Saint-Valentin. Peut-être qu'il n'y a pas des hommes qui disent « Ah, c'est ça, Saint-Valentin. » Donc, c'était la Saint-Valentin. Et si, mettons que j'arrive avec des fleurs pour Lourdes, je dis, ma chérie, pour célébrer mon amour pour toi, je t'offre ces fleurs. Pas fini. Hein? Mais... ouais. Mais si je dis, ma chérie, pour célébrer mon amour pour toi, je t'offre ces fleurs. Ça fait une différence? Oui, hein? Donc, en tout cas, si vous ne voyez pas de différence, là, Lourdes va en voir. Donc, dans notre petit PowerPoint, ben, déclaration, on dit « Je chemine ». Donc, autrement dit, c'est un processus. On est en chemin, on n'est pas arrivé. Et ce processus-là de Kintsugi, je pense qu'il faut le faire tout au long de notre vie. À toutes les fois que Dieu nous révèle quelque chose sur notre cœur, on doit lui apporter, dit, viens, viens le guérir. Donc, c'est très important, notre cœur. Maintenant, par la suite, on voit dans la suite de notre déclaration de disciple, le moteur qui nous permet de nous dépouiller notre vieil homme et de revêtir le nouveau. Plus j'accueille son amour pour moi, plus je l'aime et plus je me détourne de tout ce qui est contraire à sa volonté. Donc, c'est dans la mesure que je vais accueillir l'amour de Dieu que je vais être transformé. Parce que ça va me pousser à me dépouiller de mon vieil homme. Quand on réalise l'ampleur de l'amour que Dieu a eu pour nous, on ne peut pas faire autrement que se dépouiller de notre vieil homme. En me détournant de ce qui est contraire à la volonté de Dieu, eh bien, je vais avoir le désir de m'approcher de lui de plus en plus par sa parole. Je serai plus à l'écoute de son Saint-Esprit. Il n'y aura plus d'obstacle entre moi et Dieu que le péché met. Mon esprit va être moins embrouillé, mon cœur va être moins embrouillé. Et c'est le Saint-Esprit. Avec son Saint-Esprit, Dieu va pouvoir me transformer de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ, comme on voit dans la dernière partie. Et quels vont être les résultats de cette transformation-là? Eh bien, c'est tout le dernier paragraphe qui suit. Cette vie, c'est cette vie qui produit en moi une ressemblance grandissante à Jésus dans mes attitudes, et dans mes relations avec les autres. Donc, ça va changer mes relations, mes attitudes avec les autres. De tout cœur, je désire aimer comme j'ai été aimé, accueillir comme j'ai été accueilli. Je veux être pour les autres ce que Jésus a été pour moi. C'est pourquoi je me joins à une communauté de gens qui, tout comme moi, désirent démontrer la compassion de Jésus envers un monde brisé, et annoncer cette bonne nouvelle qui transforme des vies. Donc, voilà ce que je veux pour moi. Voilà ce que je veux pour nous. Mais je réalise que je suis encore loin de ça. Depuis toujours, j'ai toujours eu de la misère à avoir des relations authentiques avec les gens. Je présente une image de moi-même. Pas le vrai Robert. Pas le Robert avec ses faiblesses, juste avec ses beaux côtés. Bien que je sois venu au Seigneur, c'était toujours difficile. Donc, je disais que je n'avais pas de problème dans ma relation avec Dieu. Ce que j'avais, c'était avec le monde. Dans ma relation avec les frères, les sœurs. J'avais de la misère à les aimer comme Dieu me demandait de les aimer. Et je pense que 1 Jean 4, 20 est clair. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mais le Seigneur a quand même travaillé dans ma vie, dans mes relations, parce qu'il ne m'a pas laissé de même. Dieu a utilisé, pour ceux qui ne savent pas, la formation Le Sentier du cœur pour me transformer petit à petit. Il m'a amené à être un petit peu plus sensible à mes propres souffrances et aussi aux souffrances des autres. En arrière d'un comportement que je ne trouvais pas acceptable, je voyais la souffrance. Et ça, c'est important. Avant la formation, je me souviens qu'il y avait quelqu'un de proche de moi qui me faisait part de toutes les blessures qu'il avait subies. Et je lui répondais que Dieu nous demande de pardonner. Oui, c'est la vérité. Mais ça manquait totalement de compassion et d'amour. Et ça me noyait de cette personne. Après la formation, à ces mêmes paroles, je répondais, ça a dû te faire mal, hein, ces blessures-là. Et je lui posais des questions, je le laissais parler. Et ça nous a rapprochés. Oui, la vérité peut guérir, apaiser, rassurer, réconcilier, pour autant qu'elle soit partagée dans une authentique compassion. Vérité doit rimer dans nos vies avec humilité et sensibilité. L'amour compatissant sera toujours le plus percutant et persuasif des arguments. Autre exemple dans mon milieu de travail, c'est que lorsque mes élèves n'étaient pas au mon cours, m'en foutaient. Ben, je disais que m'en foutaient, plutôt. Car c'est leur responsabilité, après tout, s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas. Mais dans le fond, là, ça me choquait. J'avais l'impression de vouloir plus qu'eux. Ce sont des paresseux, ce ne sont pas leurs affaires. Maintenant, je m'intéresse davantage à ce qu'ils vivent plutôt qu'à leur comportement d'absentéisme. Donc, je leur écris un courriel. Salut, comment ça va? Il y a fait une couple de semaines que je ne te vois pas au cours. Est-ce que y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Parce que je m'inquiète pour toi. Non? Et aussi, j'ai eu de nouveaux désirs dans mon travail. Parce qu'on nous avait proposé de faire une petite formation à nos élèves, donc d'être formés pour donner une formation à nos élèves en début d'année, pour les sensibiliser à l'anxiété au cégep. Parce que les jeunes au cégep vivent beaucoup d'anxiété. Et j'ai embarqué là-dedans, puis parce que je voyais qu'il y avait une souffrance derrière cette anxiété-là et tout ça, et que ça ne lui faisait pas de bien. Également aussi, j'ai fait la formation des sentinelles pour la prévention du suicide dernièrement. Et je dois vous dire que ce sont des choses que je n'aurais jamais faites avant. Et ils montrent des émotions, Non. Mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire quand je suis encore mal à l'aise lorsque quelqu'un vient me parler de ses difficultés. Je voudrais être ailleurs. J'aime mieux faire les choses qu'écouter les discuter des autres. J'ai de la misère à écouter vraiment, finalement. Je veux donner de l'information et des solutions. Et souvent, je suis incapable de donner des solutions parce que les problèmes me dépassent. Et je pense que c'est là que vient mon malaise. Hein? Donc, ça me dépasse, donc je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est pour ça que j'ai encore besoin de transformation. J'ai un petit vidéo donc à vous passer. Donc ça va parler un petit peu au début du golfeur Tiger Woods. Vous le connaissez? Donc c'est un golfeur pour ceux qui ne connaissent pas, noir, que je pense la deuxième année qu'il a commencé sur le circuit professionnel, il est devenu le premier au monde, ce qui est exceptionnel. Donc on peut dessus le
L'année 2010 a été une année assez difficile.
Est-ce qu'on peut augmenter le son pour recommencer, s'il vous plaît?
Dans le plein milieu de la nuit, pendant l'action de grâce, ces mensonges lui ont retrouvé. Sa femme a découvert les textos qu'il avait envoyés par son cellulaire vers son amante. Elle lui a chassé de la maison avec, ironiquement, un club de golf dans sa main. Tiger a couru à son Cadillac Escalade. Mais en criant que sa femme était en train de ruiner l'action de grâce. Tiger avait pris des drogues pour lui aider à dormir, et aussi des drogues pour des antidouleurs assez forts. Ce qui a rendu sa conduite assez faible. La scène a terminé avec la voiture de Tiger qui est entrée dans un arbre. Tiger n'était pas loin du véhicule, il était en train de dormir par terre, en train de ronfler et saigner par la tête. Après 6 ans de mariage, son couple était fini, ce qui a coûté Tiger Woods 100 millions de dollars dans le divorce. Mais la nouvelle de son infidélité, avec plusieurs femmes partout dans le pays, lui a augmenté la perte. Plusieurs endossements des marques qui engageaient ont décidé de couper leur lien avec lui aussi, coûtant un autre 22 millions de dollars. Comme je vous ai dit, 2010 était une année assez difficile pour Tiger Woods. Peut-être que vous posez la question de pourquoi est-ce que je parle de Tiger Woods pendant que je suis en train de parler de l'évangélisation. C'est quoi le lien avec? Moi, je pense qu'il y a un lien très fort. Quand plusieurs marques ont décidé de ne plus faire affaire avec Tiger, ce n'était pas parce qu'il avait cessé d'être le meilleur golfeur dans le monde. Ça, c'était plus tard. Et ce n'était pas parce qu'il avait perdu sa capacité de se tenir debout devant un foule avec un rasoir gilet dans sa main en train de proclamer la qualité de l'affaire. Non. Ce qu'il avait perdu, c'est son histoire. La connexion entre ce qu'on assumait de lui et la réalité. Parce que ce n'était pas seulement le fait que Tiger était le meilleur golfeur dans le monde qui faisait que les marques voulaient faire affaire avec lui. Non, c'était l'ensemble de son histoire, qui il était. Comme homme familial, comme bon fils, comme jeune golfeur, comme personne honnête et responsable. Toute son histoire était celui d'un jeune homme qui travaillait fort, qui suivait les règles, qui avait une famille proche autour de lui, qui contrôlait ses émotions. Le genre de personne avec qui les marques vénérables comme Gillette et Buick, comme l'assurance Accenture, il y avait une résonance avec son histoire. Quelqu'un pour lequel ils étaient fiers d'avoir comme un porte-parole, parce qu'il y avait une concordance entre leurs valeurs et sa vie, son histoire. Alors, quand la vie de Tiger s'est chutée, et c'était clair que ses valeurs allaient à contre-courant de celles de Gillette et les autres, ils n'avaient pas grand choix de couper leur lien avec lui. C'est dans les moments comme ça qu'on se rend compte que le mot porte-parole peut-être que c'est pas le meilleur titre pour ce qu'il faisait. Gillette n'attendait pas juste que Tiger soit capable de porter parole, mais qu'il incarne la marque de Gillette dans toutes les sphères de sa vie. Il n'attendait pas à une porte-parole. Il attendait à quelque chose de bien plus que ça. Je parle de ça parce que dès qu'on commence à parler de l'évangélisation, on pense rapidement à des techniques pour mieux diriger une conversation. On pense à comment bien parler, comment bien expliquer les affaires. Parce que de quelque part, on a compris, on a commencé à croire que partager l'évangile, c'est une question de partager certains faits dans une certaine ordre. C'est de l'information. Et que si on réussit à le faire, les propres faits, dans leur propre ordre, comme la serrure d'un coffre-fort, toutes les pièces seront alignées et la porte s'ouvrira. On commence à voir l'Évangile comme un tâche qu'on fait qui est divorcé de la réalité de la vie quotidienne. Une autre tâche ajoutée à notre liste interminable de tâches. Et l'Évangile devient de l'information au lieu d'une expérience quotidienne. Mais quand moi je lis les Écritures, je n'ai pas le sens que partager l'Évangile, il s'agit tout simplement d'une question d'un transfert de l'information d'une personne à une autre. Si on prend l'exemple de Paul, en train d'enseigner à Timothée, il dit cela. Il dit, or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, qu'il se montre au contraire, en contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés, doit instruire avec douceur les contributeurs. Qui sait si Dieu ne les amènerait pas à changer d'attitude pour connaître la vérité? Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est le fait que Paul ne commence pas en disant « Voilà, Timothée, tout ce que tu as à faire quand tu fais ton projet d'évangélisation. » Non, en fait, on ne se rend pas compte que Paul est en train de discuter d'évangélisation. Juste quand on tombe sur la fin de l'histoire, il parle du fait que quelqu'un va changer d'idée, que quelqu'un va changer d'attitude. En place, ce qu'on entend, c'est une description de la caractère de quelqu'un qui est transformé par l'Évangile. Quelqu'un qui est rendu humble, aimable, douce dans ses interactions avec les autres. capable de dealer avec l'opposition. Et pourquoi? Parce que l'Évangile n'est pas tout simplement de l'information à discuter, mais c'est un message incarné, un message en chair et os. C'est pour ça qu'on dit souvent, tout simplement, que l'Évangile, c'est Jésus même. Pour lui d'envoyer un autre messager, un autre prophète, Dieu a envoyé son propre fils. Jésus lui-même, il avait dit des choses qui étaient profondes, n'est-ce pas? Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais le fait qui est mémorable dans ce qu'il avait dit, c'est le fait qu'il avait fait lui-même. Il a donné sa vie. C'est pas intéressant qu'il avait dit quelque chose de ce genre, mais c'est intéressant parce qu'il l'avait fait lui-même. Il a donné sa vie. Parce qu'on sait que les gestes communiquent plus fort que les paroles. Ce n'est pas pour nier la place des paroles, mais pour dire que l'idée que le message de l'Évangile peut être pleinement partagé sans le rôle des gestes, c'est faux. L'information sans l'expérience de l'amour de Dieu, c'est incomplet. C'est pour ça que je suis de plus en plus convaincu que notre premier pas en partageant l'Évangile, ce n'est pas la proclamation, mais la transformation. Parce que si le peuple de Dieu était transformé par l'expérience de l'Évangile, notre partage découlerait naturellement de notre expérience. Parce qu'on n'est pas juste des porte-paroles, mais on est appelé d'être des paroles vivantes. Comme Tiger Woods, il n'était pas simplement un porte-parole, mais Gillette cherchait qui incarnait le message, la marque de Gillette Cooper. Et pour nous, c'est pas juste que Dieu nous appelle d'être les porte-paroles. Quelqu'un qui est obligé de transférer de l'information d'une place à une autre, d'une personne à une autre. Mais qu'on est censé être des paroles vivantes. Mais le défi pour nous en ça, c'est que je suis très content de voir l'évangélisation comme quelque chose de concret que je fais, que je peux mettre dans mon calendrier, de le voir comme une activité prévue, planifiée, sécuritaire. J'aime me voir comme un commando qui entre de temps en temps dans le territoire de l'ennemi pour des missions, mais toujours avec un plan de secours en place avec la sécurité de savoir que j'habite loin de l'ennemi. Mais vivre comme un témoin qui incarne le message de Jésus me demande de vivre moins comme un commando et plus comme un voisin. Comme quelqu'un qui établit des relations avec des voisins, avec des collègues, avec son école, avec son quartier. Parce qu'un message qui est vécu devant personne ne vaut pas grand-chose. Comme du sel qui est jeté par terre, qui est inutile. Vivre comme témoin qui incarne le message de Jésus, ça demande la proximité. Il faut que je sois proche. Pas comme un commando, mais comme un voisin. On avait des amis chez nous récemment, sur notre terrasse. On parlait de la vie. On parlait des difficultés. On parlait des douleurs, de notre désir de voir des changements dans nos vies. Ce sont des amis non-croyants, en partant. Et je vous le dis, ce n'était pas le fait que j'avais des arguments forts pour l'existence de Dieu, pour l'évidence pour la résurrection qui était convaincante pour eux. Mais le fait qu'ils puissent voir le pouvoir transformatrice de Dieu qui fait de nous des gens qui sont humbles, qui reconnaissent leurs défauts et qui sont en train de changer. Ça faisait qu'ils étaient intéressés d'entendre nous, d'entendre notre perspective, de comprendre notre vécu. Parce que le message de Jésus n'est pas tout simplement un message qu'on porte, mais un message qui nous habite. Alors vivons le message de Jésus dans un monde débordé d'informations et qui désespérément besoin de l'expérience de quelque chose de réel, d'expérimenter la présence de Dieu. C'est ça l'appel que Dieu nous donne. Merci.
Tu peux le faire, hein? Un, deux.
L'année 2010 a été une année assez
difficile. Un, deux. Un, deux. Ça marche? OK. Donc, moi, il y a un petit bruit de fond. Il y a un petit bruit de fond. Ah. Et puis, C'est le rasoir à Tiger, c'est ça. Quelques réflexions, partage. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo-là? Quelque chose qui vous a touché? Une parole? Vous êtes tous bouche bée? Oui, Jean? D'autres commentaires? Oui, Eric. Non, oui. Est-ce qu'on peut dire que la transformation qu'on trouve en Dieu est la bonne nouvelle que nous avons partagée aux autres? Plus que de l'information, il s'agit d'une invitation à vivre cette expérience avec Dieu. On pense que c'est ça. Hein? Donc, la vivre cette transformation-là, pouvoir la partager aux autres et les inviter, « Hey, c'est possible pour toi aussi. » Oui. Question de vulnérabilité, hein? Accepter d'être vulnérable, ça c'est sortir de notre zone de confort. Pour moi, c'est sortir de ma zone de confort. Oui, Brian?
Le domaine, quelqu'un a dit qu'il faut revenir au contexte de ce que Jésus a dit aux disciples. Quand Jésus a dit « Allez faire des disciples de toutes les nations », il y avait dit « C'est quoi qu'on venait avec ?» Il y avait vécu 3 ans avec Jésus. Il l'avait dû faire. Quand Jésus a dit « Allez faire des disciples », eux autres, ils ont pris le modèle. Ils ont dit « Ok, maintenant c'est à nous de faire comme Jésus. » Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il était apparu dans le monde. Il écoutait les gens. Il s'accueillait pour le vu. Bonjour, même s'il n'y pas chez eux. Il était accueillant. Il prenait soin. Dernièrement, j'ai écouté aussi un enseignant qui disait que le fait fait que Jésus faisait du bien et guérissait et tout ça, c'était pas un à côté de l'évangile. C'était partie intégrante de l'évangile. C'était l'évangile interdit. Ce que Jésus faisait, il prenait soin. Il prenait leur aide, comme c'est dit en Isaïe, il prit sur lui, il reconnaissait, il a pris. Il a accepté, il a fini tout ça. Fait que Jésus, c'est notre modèle. Imaginons Jésus, là, dans une église, à prêcher l'évangile de semaine en semaine. C'est ça qu'il fait. Il était à travers le monde de monde. Et il était accessible. C'est Jésus, notre modèle. Il a réussi. Il ressemblait à Jésus.
Ça me fait penser peut-être qu'on va, faudra revoir éventuellement notre modèle d'église. Hein? Pensez-y. Là. Est-ce qu'on va vers... Si Jésus allait vers les gens, nous, on reste ici. Est-ce que le monde vient ici? Non? Hein? Oui? Exact. Non.
On est tous à une vie différente, bien souvent, nous, on est présentement le même mot. Et il reste.
Demander de l'aide de Dieu, sonde mon cœur, Dieu, là, c'est quoi, là? C'est quoi qui m'empêche, là? Tu sais, puis il va répondre. Il veut notre délivrance, mais il veut qu'on en prenne conscience. Si il nous délivre, puis on n'est pas conscient de quoi qu'il nous délivre, la gloire, va être moins, quoi, je pense. D'autres commentaires? Donc, je vais prier pour terminer. Oh oui, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Seigneur.